Chers auditeurs, pour succéder à Mgr Fleuriotto, le gouvernement nommait le 7 décembre 1889 M. le chanoine François-Antoine Geoffrey de Marseille et le 30 décembre, le pape confirmait cette nomination. Toute la vie sacerdotale de Mgr Geoffrey avait été consacrée à l'éducation de la jeunesse à Marseille et il avait été en dernier lieu directeur de l'école de Belzunce. Mgr Geoffrey avait un frère qui était directeur de l'écho d'Oran, lequel était favorable au régime en place à Paris et qui avait sans doute déteint sur son frère, le chanoine, car ce dernier ne fit jamais mystère de ses préférences républicaines. Son évêque, Mgr Placé, l'estimait bien, mais ce dernier avait été nommé archevêque de Rennes et le chanoine Geoffrey ne trouvait pas la même confiance auprès du nouvel évêque de Marseille, Mgr Robert. Il préféra donner sa démission. Mgr Robert estimait ne pas devoir favoriser la promotion de Mgr Geoffrey à l'épiscopat. Il ne le trouvait pas capable d'administration, bien que bon prêtre. Mais les appuis de Mgr Geoffrey dans les milieux officiels furent plus efficaces que l'opposition de son évêque et le gouvernement le nomma à l'évêché de Bayonne. Après des communiqués contradictoires sur la date et le lieu du sacre, on apprenait bientôt que cette cérémonie aurait lieu le 9 mars, mais à la cathédrale d'Auch. Il semble que ce choix ait été imposé à Mgr Geoffrey par les autorités gouvernementales qui redoutaient quelque incident toujours possible à Marseille en raison de la personnalité de l'évêque diocésain. La cérémonie déploya ses fastes liturgiques dans la cathédrale de la métropole, en présence d'une nombreuse délégation de Basques et de Béarnais. Mgr Robert, évêque de Marseille, n'y assistait pas. Dans le toast que le représentant du chapitre de Marseille prononça à la fin du repas, l'orateur se fit l'écho des regrets de tous ceux qui n'avaient pu se trouver ce jour-là à Auch. La distance, les obligations impérieuses du ministère en étaient la cause. J'ose dire que depuis le simple prêtre jusqu'à notre vénéré premier pasteur, ce regret est universel. L'entrée solennelle de Mgr Geoffrey à Bayonne se fit le lendemain 10 mars au milieu de la liesse populaire tout au long de rues somptueusement ornées pour son passage et illuminées pour la fête nocturne. Mais les difficultés n'allaient pas tarder à se présenter. Les élections législatives venaient de se dérouler le 22 septembre 1889 et avaient vu en France la victoire des Républicains. Cela était vrai également pour les Basses-Pyrénées, sauf cependant dans les deux circonscriptions du Pays basque, ceux de Bayonne et de Mauléon. À en croire le préfet, le feu revenait au clergé qui, utilisant son pouvoir spirituel contre les électeurs républicains, avait favorisé les conservateurs. Le gouvernement avait obtenu du Conseil d'État un décret qui lui laissait les mains libres pour sanctionner par une suppression du traitement les desservants dont il avait à se plaindre. Pour les Basses-Pyrénées paraissait une liste de 29 prêtres, 18 Basques et 11 Béarnais, pour qui ce traitement était suspendu. La décision du gouvernement suscita beaucoup d'émotions dans le diocèse et on se mit en devoir de lancer une souscription. Mais le gouvernement estimait que cette suspension n'était pas une sanction suffisante. Pour les Basses-Pyrénées, le préfet intervenait auprès des vicaires capitulaires pour obtenir d'eux le déplacement d'un certain nombre de desservants qui avaient prêché à leurs paroissiens que voter pour les candidats républicains constituait un péché mortel passible des peines de l'enfer. Les vicaires capitulaires refusèrent de s'exécuter et répondirent très diplomatiquement « Annuncions-nous la volonté, nous n'avons pas le pouvoir de les déplacer. Et s'ils faisaient ces changements, les prêtres ne s'y soumettraient pas sans porter leur cause à Rome et sans y être contraints par une sentence du Saint-Siège. » Sur ces entrefaites survient la nomination de Mgr Geoffrey. Cette nomination était-elle assortie de l'exigence du déplacement des prêtres que le gouvernement voulait sanctionner? On pourrait le penser. De toute manière, il paraît certain que lui fut demandé de réaliser ce que les vicaires capitulaires avaient refusé d'accomplir. M. l'abbé Enchospé l'avait salué à la cathédrale le jour de son intronisation et avait conclu sa présentation du clergé basque par ces mots « Vous jugerez, Monseigneur, en les voyant de près et en les voyant à l'œuvre. » Monseigneur Geoffrey n'eut pas ou ne prit pas le temps de les voir agir, de les voir vivre et agir. Le gouvernement exerçait une sorte de chantage. Il rétablirait les traitements contre les mutations demandées. La générosité de leurs confrères et des fidèles ne pouvait suffire à assurer leur subsistance à long terme. L'évêque finit par s'y résoudre. Le bulletin catholique du 11 mai 1890 portait la nomination des vicaires généraux. Si M. l'abbé Lasserre était reconduit dans ses fonctions, M. l'abbé Enchospé, considéré comme le chef de file des opposants, était écarté et à sa place était nommé l'abbé Thiars, jusque-là directeur au grand séminaire. M. l'abbé Enchospé se retira sur ses terres en Soule avec le titre de vicaire général honoraire. Mais l'affaire ne s'arrêta pas là. Comme l'avaient pensé les vicaires capitulaires en 1889, 7 des prêtres déplacés firent appel à Rome. Malgré l'entremise d'un prélat français bien en cours à Rome, Mgr Puyol, recteur de Saint-Louis des Français, Mgr Geoffrey campa sur ses positions. Tout finit cependant par s'arranger grâce à une de ces piccole combinazioni dont les bulots romains avaient le secret. Il était bien difficile de donner tort à l'évêque. Les desservants n'étaient pas inamovibles et les décisions de l'évêque n'entraînaient pas de déficit pour eux car les paroisses qu'ils recevaient en échange étaient d'égale importance. Cependant, ces prêtres n'avaient pas démérité et on leur signifia en attribuant à 4 d'entre eux des titres romains honorifiques. On racontait la mauvaise humeur de l'évêque d'Abayonne en apprenant ses promotions, déception qu'il voulut marquer en refusant de les faire paraître dans le bulletin catholique. La presse nationale s'en mêla et Mgr Geoffrey écrivit au journal Le Monde une lettre dans laquelle il cherchait à se justifier. Il n'avait pas été instruit de l'intention du Saint-Père. Il avait appris ses titres honorifiques par la rumeur publique. Il est faux de dire qu'il ait repoussé les propositions de Mgr Puyol, faites au nom du souverain pontife. Mgr Puyol s'est présenté à l'évêché pour s'entremettre d'un arrangement, mais ce prélat n'avait aucune pièce qui l'accréditât. Je me suis fait toutefois un devoir de déclarer devant lui et en présence de mon conseil que j'étais prêt à accomplir non seulement les ordres, mais les moindres désirs que le Saint-Père voudrait me notifier. Je l'aurais moi-même immédiatement écrit au Saint-Père si je n'avais pas eu tout lieu de croire que l'affaire était terminée. Le titre de cabellier secret de sa sainteté était attribué à M. l'abbé Diarassari, curé d'Ossès, et à M. Mendibourg, nommé à Ayers. L'abbé Méliategui de Las et l'abbé Iliard de Bélios obtinrent le titre quelque peu mystérieux de missionnaire apostolique. Nous verrons la prochaine fois une courte biographie de Mgr Diarassari et l'histoire des missionnaires d'Asparin avec la figure du chanoine Arbelbide.